La semaine dernière, on vous annonçait que Noémie Pomerleau-Cloutier avait remporté le prix du Calque, œuvre de la relève à Montréal pour son recueil « La patience du lichen », publié il y a un an cette semaine même aux éditions La Peuplade. L'autrice originaire de la Côte-Nord, pour qui il s'agit d'un deuxième livre, se trouvait en lice aux côtés de Frédéric Côté pour son roman intitulé « Philibuste » et de Mathilde Duval-Laplante pour son projet musical intitulé « L'autre ». CJTB s'est donc entretenu avec Noémie Pomerleau-Cloutier pour revenir sur l'œuvre à laquelle elle a donné vie après s'être inspirée des habitants de la Basse-Côte-Nord et de leur réalité. Dans l'entrevue qui vous sera présentée sous peu, elle aborde sa volonté de démocratiser la poésie, en plus de saluer les poètes naturels que sont les Coasters. Elle s'exprime aussi sur la préoccupation qui l'habite, depuis le début de ce projet, de faire ça comme il faut, dit-elle, et de soigner ses relations avec la Basse-Côte-Nord en redonnant aux communautés qui l'ont accueillie. Mais d'abord, dans l'entretien, elle répond à ma première question: comment a-t-elle réagi lorsqu'elle a appris qu'elle avait remporté le prix du Calque, œuvre de la relève à Montréal?
J'ai crié un petit peu. J'étais au bureau. Je pense que j'étais toute seule dans mon bureau et que je n'avais pas mes participants en alphabétisation parce que j'ai un peu crié. Puis j'étais là, oh Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Moi, j'ai de la difficulté à me considérer artiste à la base. Fait que là, bon, artiste de la relève. Puis en même temps, je me suis dit que c'était un beau pied de nez, tu sais, parce que souvent, la relève, on associe ça dans la tête à la jeunesse. Et jeunesse, pour le gouvernement du Québec, c'est 35 ans et moins. Puis des fois, il y a des programmes de résidence aussi auxquels des gens de la relève, comme moi, qui ont commencé leur carrière artistique plus tard qu'à 35, ont pas accès parce que ça arrête à 35. Fait que je me suis dit que c'est quand même un beau pied de nez. Puis je me suis aussi dit que ça serait vraiment une belle tribune pour la Basse-Côte-Nord. Parce que c'est sûr que ça l'attire de... c'est l'attention sur le livre, donc sur la réalité des coasters, les réalités, devrais-je dire. Puis je me suis aussi dit après, ah ben ça veut dire qu'ils vont en vendre beaucoup, ça veut dire que je vais pouvoir donner plus d'argent aux jeunes de la Basse-Côte-Nord via l'école Olamen, l'école Pacoachipi, puis la fondation du docteur Camille Marcoux. Je pense que les gens ont le goût de découvrir qu'est-ce qui se fait en poésie au Québec maintenant, et puis que ça peut avoir toutes sortes de teintes. Moi, en ce moment, je donne des ateliers de poésie en Basse-Côte-Nord avec le CSS du littoral, mais c'est un partenariat avec l'organisme Glaise Bleue qui est tout nouveau à Tête à la Baleine. Donc,
Pourquoi c'est important pour toi de partager ces connaissances, mais cet amour de la poésie avec les gens en Basse-Côte-Nord comme ailleurs? Là, on n'est pas les seuls, j'imagine, à qui tu offres des ateliers, là.
Bien, en fait, moi, je donne aussi des ateliers de poésie avec les participants et participantes de mon organisme en alphabétisation à Montréal. Bien, l'organisme pour lequel je travaille, l'Atelier des lettres, fait qu'on fait de la poésie ensemble. Mais pour moi, depuis des années, depuis presque mes débuts en poésie, c'est important de démocratiser la poésie, de la rendre accessible à tout le monde. Parce que souvent, les gens ont peur de lire la poésie parce qu'ils disent que c'est pour les universitaires ou pour l'élite. On n'a pas besoin d'avoir une maîtrise, un bac, pour comprendre la poésie. En fait, la poésie, c'est pas fait pour être compris. C'est fait pour être ressenti. Puis ça, tout le monde a accès à ça. En Basse-Côte-Nord, il y a plein de poètes qui ne le savent pas. Je veux dire, les expressions sont super colorées, les gens sont des conteurs incroyables et des conteuses incroyables. Donc, il y a ce potentiel-là en Basse-Côte-Nord qui est inexploité. Bien, qui est exploité, mais peut-être pas à l'écrit, je dirais.
D'ailleurs, tu as profité de cette poésie-là des gens quand tu es venu les visiter ici là, en Basse-Côte pour ton recueil. Qu'est-ce que tu retiens de ça? Qu'est-ce que tu gardes de cette expérience-là?
Mon Dieu, tant de choses. Je pense que c'est l'ouverture des gens. Quand même, moi, j'ai été chanceuse. Les gens m'ont vraiment bien accueillie. La richesse de ces vies-là, l'humanité de ces personnes-là, la résilience, la solidarité, la beauté. Parce qu'au-delà des paysages, les gens sont magnifiques en Basse-Côte-Nord. En tout cas, moi, les gens que j'ai rencontrés étaient tous magnifiques à leur façon. Dans les grandeurs, dans la façon d'habiter sa vie puis son territoire, jour après jour. Puis j'aime ça que tu as dit que j'ai profité dans un sens de leur poésie. Ça a été un grand questionnement pour moi tout au long du processus. Si je faisais ça comme il faut. C'était vraiment important pour moi que de faire ça comme il faut. Et ça fait partie de ça, le fait que je redonne mes droits d'autrice puis que je continue à donner des ateliers et tout ça et à essayer de venir et à parler de la Basse-Côte-Nord. C'est pour pouvoir redonner. Puis je soigne mes relations avec la Basse-Côte-Nord parce que ça fait partie pour moi de ma façon d'être. Mais maintenant, quand je réfléchis à la littérature, j'essaie de réfléchir à l'après des projets. Puis pour moi, c'est important d'avoir des relations vraiment comme très près avec les gens avec qui j'ai travaillé et de soigner l'après-écriture.
Mm-hmm. Je t'ai entendu dire dans une vidéo de la Fabrique culturelle qui parlait de ce processus-là, de la visite que tu nous as rendue ici, que tu disais à un homme que tu pouvais jouer avec tout. La poésie permet de jouer avec tout, même les histoires de pêche, de poisson, en fait, pour reprendre tes termes. Est-ce qu'il y a des sujets que tu n'as pas été capable d'aborder?
Ça, c'est vraiment intéressant. Certains problèmes socio-économiques. Liés, mettons, à la détresse dans les familles, dans certaines familles. Je ne voyais pas en quoi ça allait faire avancer le recueil. Je sais que ça existe partout. La particularité peut-être en Basse-Côte-Nord, c'est que quand ça arrive, ben, c'est parce que tout le monde se connaît. Tu vas le voir là, quand ça fait un bout que tu vis. Là. Tout le monde se connaît, peut-être pas personnellement, mais tu sais, de nom ou de... C'est quand même une région vaste, mais il n'y a pas une très grande population. Fait que je ne voyais pas en quoi ça allait faire avancer ça, le recueil. Puis, c'est sûr que j'étais mal à l'aise à l'idée d'aborder ça, je dois l'avouer.
Ça venait plus d'une pudeur que d'un manque d'inspiration, si je comprends bien.
Oui, c'est ça. Je pense que c'est ça. Puis dans l'aspect de soigner les relations aussi.
Mm-hmm.
Puis le racisme, ça a été dur pour moi de l'aborder. Puis là, je ne dis pas ça en disant que les gens en Basse-Côte-Nord sont racistes et tout ça. Au Québec, il y a ça, là. On ne se le cachera pas, le racisme systémique existe. Puis on est aussi... Même si des fois, avec toute la meilleure volonté du monde qu'on a, des fois, on perpétue des comportements qui pourraient être vus comme racistes, mais sans le vouloir, tu sais. Fait que les relations, des fois, sont tendues entre allochtones et autochtones partout sur le territoire. Mais tu sais, en Basse-Côte-Nord, ça se vit dans la proximité. Fait que j'ai eu de la difficulté à aborder ça. Je l'ai abordé un peu dans deux courts poèmes. C'est ça. Puis ça vient beaucoup de la façon dont l'État gère les choses. Et c'est à l'avantage du gouvernement, des gouvernements, devrais-je dire, que les gens ne s'entendent pas. Dans un territoire vaste, comme je dirais, comme la Côte-Nord en général aussi, où il y a beaucoup de ressources naturelles, c'est vraiment à l'avantage des gouvernements que les allochtones et les autochtones ne s'entendent pas, ou pas qu'ils ne s'entendent pas, mais mettons qu'ils ne s'entendent pas sur des enjeux territoriaux. Fait que c'est ça. Mais moi, tu sais, puis c'est clair que dans ma posture comme personne, puis comme autrice, tu sais, je le nomme quand même. Les Autochtones, dont la nation Innu et les Inuits, étaient là avant nous, bien avant nous. Et j'essaie de le faire de façon la plus... C'est d'en parler de la façon la plus délicate possible. Parce que je ne suis pas autochtone, donc c'est pas... Mais je me considère comme assez ouverte à ces questions-là, puis j'essaie d'adopter une posture d'allié. Donc, j'en parle quand même. Mais c'est ça. Donc, ça, tu sais, je veux que ça soit clair là, que c'est pas, c'est pas les gens de la Basse-Côte-Nord qui sont racistes. C'est que le racisme existe au Québec. Puis le colonialisme a des effets sur nous aussi en tant que personne de la majorité. Donc. Puis on pourrait le parler pendant des heures aussi du lien entre aussi le fait que à la Basse-Côte-Nord, les anglophones sont majoritaires, alors que dans le reste de la province, ils sont minoritaires, mais qu'au Canada, ils sont majoritaires. En tout cas, tous les rapports de force, là aussi. Ça serait comme un autre livre.
Oui, un autre recueil.
Mais c'est ça. Ça a été des sujets qui étaient difficiles à aborder, oui.
Puis à l'inverse, est-ce qu'il y en a qui ont été très, très inspirants? Lesquels étaient le plus inspirants parmi les sujets?
Je pense que les histoires qui avaient rapport aussi avec le patrimoine, la passation des savoirs, c'est quand même, pour moi, super intéressant. Il y a plein de choses que j'ai apprises. La disparition d'un village, même si c'est triste, c'est quand même intéressant à traiter. Tout ce qui est différence dans l'approvisionnement, dans le transport, dans la santé aussi. En fait, toutes les différences, je pense. Puis bon... Je suis quand même un faible pour les histoires des femmes. Fait que je pense que dans mes préférés, il y a les deux grands-mamans guérisseuses à St. Paul's River. Celle-là, je l'aime beaucoup. Mais en fait, moi, mon problème, c'est que je vois les gens derrière ces poèmes-là maintenant. Fait que ça a été aussi une question avec la peuplade. Quand j'ai remis le premier jet du manuscrit, j'ai dit... Là, vous pouvez en couper si vous voulez, mais moi, je ne serai pas capable de couper. Fait que, expliquez-moi pourquoi vous voulez couper, mais faites le ménage vous-même. Parce que c'est toutes des gens que je veux voir dedans, puis on n'en a pas coupé finalement.
C'était Noémie Pomerleau-Cloutier, autrice de La patience du lichen et récipiendaire du prix du calque, œuvre de la relève à Montréal. L'écrivaine planche présentement sur d'autres projets d'écriture, dont un livre de poésie jeunesse en lien avec la neurodiversité. C'était vos informations locales présentées par La Voix du Large en collaboration avec l'initiative de journalisme local.